Le déconfinement nous dira si on doit se réorganiser de façon plus forte ou si ça ira comme ça.
Vincent Vissec du domaine Mazda Gamas répond à nos questions. Anna nous parlera d'une mode responsable. Elsa nous donnera un conte dont elle a le secret. Nous accueillerons une toute nouvelle chronique. Enfin, nous terminerons en chanson Made in Montpérou. Nous sommes vendredi 24 avril 2020 et vous écoutez la 21e émission de votre web radio. Gardez le lien à Montpérou. Vincent Vissec est le propriétaire du domaine Mazda Gamas. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Comme dans bon nombre d'entreprises, le confinement s'est invité chez vous. Comment vous êtes-vous adapté ?
Au quotidien, en me concernant, ça n'a pas changé beaucoup la vie, puisque je suis dans les vignes, mis à part le fait qu'on perd moins de temps pour aller livrer nos clients qui, eux, ne travaillent pas, comme les restaurants ou certains cavistes.
Est-ce que cela a un impact en termes de retard ? Je pense à la taille, la vinification.
Non, au contraire, dans les vignes, on y est allé un peu plus parce qu'on avait plus de temps, justement, donc là, on est au top.
Est-ce que les ventes ont été touchées ?
Alors, les ventes, elles sont très touchées parce que nous, on travaille en grande majorité avec les cavistes qui, eux, en petite partie ou en grande majorité, selon certains, revendent à les restaurations. Donc, oui, on est impacté fortement par une chute des ventes. Ouais.
Si la crise sanitaire devait durer, comment feriez-vous ?
Il faudra organiser un circuit court, proposer des livraisons peut-être à nos clients particuliers dans le secteur, un peu plus loin, proposer des frais de port peut-être gratuits ou du moins à partir d'une certaine quantité.
Vous avez donc déjà envisagé des pistes de réorganisation à plus ou moins long terme ?
Oui, évidemment. Ouais. Le déconfinement nous dira si on doit se réorganiser de façon plus forte ou si ça ira comme ça.
Une question plus personnelle, si vous permettez. Comment vivez-vous ce confinement ?
J'ai pas plus de temps pour la famille que d'habitude. Ma femme s'organise pour faire les cours puisqu'elle est professeure des écoles. Donc, il faut qu'elle communique aussi avec ses élèves. Plus, la professeure des écoles de notre enfant nous envoie des choses que l'on lui fait faire. Voilà. Moi, personnellement, je passe pas plus de temps avec ma famille que d'habitude.
Peut-être un dernier mot pour les Montpérousiens ?
On a la chance de vivre à la campagne, il faut en profiter. On est légèrement épargné, mais il faut pas oublier de suivre bien les consignes qu'on nous a appliquées.
Merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Vincent Vissec, du domaine Mazda Gamas. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas Internet et veut quand même écouter nos émissions ? Il existe une solution. Placez votre téléphone ou haut-parleur devant votre combiné et appelez la personne. À défaut d'être pur, le son passe très bien et vous permettrez ainsi de garder le lien. Bonjour Anna.
Bonjour Montpérou.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
C'est l'enfer de la mode, c'est vraiment super sympa. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la révolution de la mode.
Nous allons donc parler couture, c'est ça ?
Détrompez-vous, je ne vais pas vous parler taffetas ou dentelle, ni vous raconter les potins de la dernière Fashion Week, mais plutôt ce qui se cache derrière les paillettes. Une réalité bien souvent triste, car vous êtes-vous déjà demandé qui avait fabriqué votre t-shirt préféré ? Combien cette personne avait été payée pour le faire ? Ou à quoi pouvait ressembler sa vie ? Eh bien, les réponses à toutes ces questions ont éclaté aux yeux du monde le 24 avril 2013.
Que s'est-il donc passé ce jour-là ?
Ce jour-là, l'immeuble du Rana Plaza, à Dhaka, au Bangladesh, s'effondre. Devant les médias du monde entier, 1138 corps d'ouvriers du textile, 2500 blessés, se mêlent aux étiquettes des marques de mode connues.
Et cela a eu des conséquences ?
Une prise de conscience s'imposait. S'offrir les dernières tendances mode à bas prix avait finalement un coût élevé, celui des vies de ces petites mains qui fabriquent nos vêtements en vivant dans la pauvreté, sans la liberté de négocier leur salaire indécent et leurs conditions de travail inhumaines. Le mouvement de la révolution de la mode était né, et ce jour commémoratif est désormais célébré dans plus de 130 pays.
Le mouvement s'est répandu, mais il s'est aussi traduit au niveau législatif.
Depuis, des lois ont même été votées, dont en France, la loi Rana Plaza en 2017 qui impose aux entreprises un devoir de vigilance et aux grands groupes du textile de veiller à ce que les usines soient salubres et que les ouvriers travaillent dans des conditions dignes.
Mais aujourd'hui, pourquoi continue-t-on à célébrer ce 24 avril ?
Le but de cette journée est de nous inciter à consommer la mode autrement, à militer pour une industrie qui valorise les gens avant la croissance et le profit. Parce qu'il faut être conscient que quand on achète un t-shirt à 10€ ou un jean à 30€, c'est que dans la chaîne, un des acteurs est écrasé. Tantôt le fabricant, tantôt l'environnement, mais souvent les deux.
Vous nous dites donc que la mode n'est pas qu'esthétique, qu'elle doit aussi être éthique.
La mode doit au contraire respecter les peuples et la planète, avec un travail juste et décent, une protection de l'environnement et l'égalité des sexes.
Et nous, que pouvons-nous faire à notre niveau ?
Les internautes sont invités ce jour-là à se prendre en photo avec leurs vêtements à l'envers, étiquette apparente. Une façon de prendre conscience de la provenance des textiles que l'on porte au quotidien. Un selfie utile et éthique, en quelque sorte.
C'est une grande dame de la mode qui vous inspire votre conclusion.
Coco Chanel disait que pour être irremplaçable, il fallait être différent. Alors pour que la mode et ses paillettes restent éternelles et irremplaçables, faisons en sorte tous ensemble de la rendre différente, de la rendre éthique.
Merci beaucoup Anna, au revoir.
Au revoir.
Anna, notre journée mondialophile.
La blague de l'ado.
Combien faut-il de fous pour changer une ampoule ? Cinq. Un qui monte sur la table et les quatre autres qui tournent la table.
Radio, gardez le lien. Pour réagir, composez le 07 67 19 66 13 ou rendez-vous sur notre site gardezlelien.fr. Cette radio est la vôtre, alors profitez-en. Aujourd'hui, Elsa, la conteuse du Barry, nous donne un conte à méditer particulièrement en ces temps bouleversés.
Il était une fois, ou il ne l'était pas, un homme qui vivait dans un village. C'était un gros village, c'était un bourg, c'était son village. Un jour, cet homme décide de partir. Il met son costume de pèlerin, il prend son bâton et il prend le chemin. Il sort de son village et à l'entrée du village, il aperçoit une femme. Vêtue tout en blanc, il s'approche d'elle et il lui demande comment elle se nomme. Et elle lui répond « Je suis la peste. Je suis la peste et je vais dans ton village. Et je tuerai 90 personnes. Pas une de plus, pas une de moins. » L'homme la regarde, elle le regarde et il s'en va. Il marche. Et un jour, il revient. Il arrive devant son village et là, il n'y a plus personne. Les maisons tombent en ruine, le lierre grimpe sur les murs, les herbes ont envahi les chemins, les ronces rampent sur les tombes, et au loin, il distingue une silhouette, c'est la peste. L'homme est en colère, il arrache ses vêtements, il s'approche d'elle et il lui dit « Mais qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Tu avais dit que tu tuerais 90 personnes, pas une de plus, pas une de moins, et ils sont tous morts !» Et elle lui répond « J'ai fait ce que j'ai dit, j'ai tué 90 personnes. Pas une de plus, pas une de moins. Les autres sont mortes de peur. Et l'histoire est finie.
Elsa, la conteuse du Barry. C'est une toute nouvelle chronique que nous propose Françoise aujourd'hui. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors, de quoi traite votre chronique ?
Je vous propose de découvrir au fil de nos émissions les plumes montpérousiennes.
Qu'est-ce que vous appelez les plumes montpérousiennes ?
Tout simplement les gens qui écrivent à Montpérou.
Et quel ouvrage avez-vous choisi aujourd'hui ?
Pour bien commencer cette chronique des plumes montpérousiennes, je vous propose la lecture ou la relecture de « Montpérou au cours des siècles » d'Yvon Cressac.
Yvon Cressac, tiens, ce nom me dit quelque chose. Et de quoi traite son livre ?
C'est une monographie sur l'histoire de Montpérou. Avant de vous parler du contenu du livre, je voudrais juste dire que Yvon se définit lui-même comme un amoureux du patrimoine, s'inscrivant dans la lignée d'autres fils du pays, comme il dit. C'est un plaisir de lire notre histoire locale truffée d'anecdotes.
Avez-vous un exemple ?
Oui, comme par exemple quand il évoque Élie Brackenhofer, un célèbre voyageur qui en 1644, à propos des femmes qui fabriquaient le verdet à Montpérou, dit « Les gens du pays sont aimables et respectent les étrangers, les femmes sont d'une remarquable beauté, elles ont un costume provoquant, elles sont presque à demi-nues de telle sorte qu'on voit à peu près leurs épaules et leurs poitrines nues, ce que je n'ai jamais encore observé en aucun lieu de France qu'ici. »
Mais ce livre n'est pas qu'anecdote.
Non, pas du tout, effectivement. Il nous parle de l'origine du village en 996 avec l'Adiciano et ensuite il nous parle de la construction du Castellas en 1070.
Ah, le Castellas, parlons-en.
Oui, le castellas, castrum en latin qui signifie « lieu fortifié ». Il a permis la surveillance rapprochée de l'Adiciano, le premier Mont-Pérou. S'y sont succédés dans ce castellas les familles seigneuriales des Raymond, Mandago et Roquefeuille.
Vous dites qu'outre son contenu, ce livre a une saveur particulière.
Oui, en relisant Yvon, je l'ai entendu me parler de son castellas qu'il aimait tant, et ça fait du bien.
Eh bien, merci Françoise pour ce conseil de lecture. À bientôt pour la découverte d'une nouvelle plume.
À bientôt.
Françoise, notre libraire du confinement. Le petit mille-pattes qui s'est glissé dans notre émission s'était échappé de leur album. La Cravate, groupe montpérousien, nous offre une balade avec deux ailes. Voici « Running in my mind ».
Thank you.
Voilà, notre 21e émission s'achève. Une émission dont la préparation aura été un peu perturbée par une sympathique équipe de France 3 venue faire un reportage sur votre web radio. Un grand merci à Benoît de Tigny et Stéphane Taponnier pour leur gentillesse et humanité.
Quant à nous, on vous dit à demain et...
Gardez le lien !